si vous regardez un peu la façon dont le karité est considéré dans l'industrie en général, on le considère comme une commodité ou un ingrédient bas de gamme. Vous allez en linéaire en magasin, vous verrez que souvent les produits à base de karité sont en bas de linéaire. Alors parfois on m'a expliqué que c'était parce que c'était pour les pieds, donc on le met en bas, mais bon,
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Carole Tawema, qui a cofondé Karétik il y a quelques années. Au-delà d'une marque aux formules exigeantes, Carole voulait surtout rendre ses lettres de noblesse à une matière première exceptionnelle, assez méconnue et dénigrée à tort, le karité. Avec Carole, on a parlé du karité du Bénin, mais aussi de dignité, de respect des femmes et de leur travail, et de l'avenir avec un autre ingrédient, rare et très prometteur. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Carole.
Bonjour Chantal.
Alors, Karétik existe depuis 2005, et c'est une histoire de famille. Comment tout a commencé ?
Alors en fait, c'est le concept de Karétik, le nom de Karétik qui existe depuis 2005. J'ai simplement associé le karité et éthique.
D'accord.
Et le projet a débuté à partir de mon mémoire de fin d'études sur les stratégies de développement du commerce international du karité pour l'Afrique.
Ok.
Et j'ai eu la chance en fait, de dans le cadre de ce mémoire, d'échanger avec l'une des marques numéro 1 du karité, enfin dans les cosmétiques, notamment les cosmétiques françaises, et ça m'a permis en fait d'identifier une opportunité pour les productrices de karité de mettre en avant leur savoir-faire. Donc quand je dis de la chance, en fait, c'est que j'ai eu accès à une information qui était clé pour la suite des événements.
D'accord.
Ensuite, ma sœur.
C'était quoi comme information, on peut savoir? ou c'est secret défense?
Non, mais c'est que la personne qui était en charge de l'approvisionnement en ingrédients et en matières premières en provenance d'Afrique pour cette marque m'a fait part du fait que dans les années 90, la plupart des marques de cosmétiques se sont passionnées pour l'Afrique et les ingrédients de en provenance de l'Afrique. Ouais. Elles sont souvent tombées amoureuses en fait de ces ingrédients, mais quand il a fallu passer à l'étape industrielle, elles ont choisi de passer à l'étape industrielle, à savoir s'approvisionner dans ces matières premières et ensuite dénaturer dans le sens où elles s'adaptaient au mode de production industriel à l'époque. Donc elles ont raconté une histoire et dans les faits, dans la fabrication, et qui se comprend, il y a des contraintes dans la fabrication industrielle des produits cosmétiques, elles ont fait autre chose et donc en fait il y avait un hiatus entre l'histoire racontée et la réalité. Donc, en gros, il me disait, le karité, c'est un ingrédient merveilleux, les premiers qui se sont lancés là-dedans, en fait, ont pensé qu'en fait, ce qu'ils voyaient dans les villages africains pouvait être approvisionné en quantité adaptée pour l'industrie. Et les premières expériences ont été assez catastrophiques parce qu'ils se sont retrouvés avec du beurre de karité, ils ont dû jeter des containers entiers,
donc
des pertes financières importantes pour eux, et la solution qu'ils ont trouvée, c'était le raffinage. Voilà ce qui s'est passé, et je me suis dit, tiens, c'est étrange, parce que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi l'autre option donc, que j'ai mise en œuvre via Karétik, à savoir accompagner ces femmes, leur permettre de travailler dans des conditions suffisamment digne, des conditions de travail respectant le droit du travail humain pour qu'elles puissent obtenir un produit un beurre de karité de bonne qualité qui ne nécessite pas de raffinage.
Voilà. Ouais, d'accord. En plus, ce qui voulait dire raffinage, j'imagine, voulait dire moins de karité finalement dans le produit fini, quoi, beaucoup moins.
Oui, alors en fait, la quantité de karité va dépendre du type de formule qu'on souhaite. C'est-à-dire que si vous voulez une crème ou un lait, il n'y a pas trop d'intérêt de mettre beaucoup de karité dedans. Ou en tout cas, ça va être impossible. Et donc à l'époque, c'est vrai que c'est des formules qui étaient beaucoup plus présentes sur le marché parce que on parlait beaucoup d'hydratation. Il y avait cette idée fausse. Donc c'est quelque chose que j'ai compris et découvert, qui m'a amené en fait à construire les formules et la façon dont on a développé les formules caritiques, c'est que l'hydratation ne consiste pas à avoir de l'eau dans un produit cosmétique. L'hydratation consiste à avoir des produits cosmétiques qui captent l'eau, qui sont en capacité de capter l'eau. Donc une fois qu'on sait ça, en fait, on comprend que les formules qui étaient présentes sur le marché à l'époque n'étaient pas forcément cohérentes avec avec le principe d'hydratation.
Et alors, tout se passe dans une région bien particulière du Bénin. Alors, laquelle est, je crois qu'elle a une reconnaissance en plus au niveau mondial.
Alors, non, c'est drôle parce que parce qu'effectivement, tout le monde parle beaucoup du Bénin en ce moment, mais c'est un petit pays qui est très, très peu connu. Alors, si, on connaît le Bénin à travers Angélique Kidjo, Jimmy Mounsou, Sidney Govou, mais là, effectivement, c'est une zone particulière du Bénin, donc la Takora, le nord du Bénin, qui a été mise en lumière récemment dans un reportage de France 2. Et donc, c'est une zone qui est précieuse, enfin, c'est un trésor à mes yeux, en tout cas, au Bénin, parce que c'est une zone vierge pendant longtemps. Donc c'est la ministre du commerce qui m'a confirmé ça. Pendant longtemps, les producteurs dans ce territoire ont refusé d'utiliser des pesticides. Enfin, ils refusent toujours d'ailleurs d'utiliser des pesticides. Donc ils ont réussi en fait à préserver leur sol, leur environnement. Et en fait, il y a eu des accidents. On a trouvé des traces de pesticides. Ce qu'on analyse chaque année notre beurre de karité, c'est l'un des intérêts de la certification bio. Et en fait, ces accidents à chaque fois ont amené en fait un lever de bouclier des producteurs, parce qu'ils ont pour eux en fait le coton, donc c'est principalement le produit qui est cultivé dans la zone. Le coton nécessite des pesticides et en fait lorsque le gouvernement dans les années 90 a décidé de faire du coton un levier de développement du Bénin, il s'est retrouvé face à des producteurs qui savaient pertinemment que utiliser des pesticides allait à terme appauvrir leur sol. Et donc nous en fait nous sommes originaires, donc quand je dis nous c'est ma sœur et moi, puisque Caritique c'est une entreprise familiale, et nous on a la chance d'être originaire de cette région, et en fait dans les productrices de karité sont aussi principalement basées au nord du Bénin, donc on s'est juste appuyé en fait sur nos forces et ce qu'on connaissait pour construire Caritique. Et donc dans l'histoire de Caritique, effectivement, le miel de karité arrive, et ce miel-là, personne ne connaissait, ne savait, déjà très peu de personnes savent que le karité, c'est un arbre qui porte des fruits, et que le beurre de karité vient de l'amande. Et très peu de personnes savent que le karité a une fleur. En même temps, je sais pas, quand on est à l'école, on est censé savoir c'est les bases, que pour avoir un fruit, il faut une fleur. Et en fait, la fleur de karité donne du miel de fleur de karité.
On va en reparler. On va en reparler plus tard. Ouais. Alors, qu'est-ce qui rend votre karité si différent du karité qui est produit dans d'autres pays d'Afrique?
La différence, c'est qu'on lui donne de la valeur. Si vous regardez un peu la façon dont le karité est considéré dans l'industrie en général, on le considère comme une commodité ou un ingrédient bas de gamme. Vous allez en linéaire en magasin, vous verrez que souvent,
c'est vrai,
les produits à base de karité sont en bas de linéaire. Alors parfois, moi, on m'a expliqué que c'était parce que c'était pour les pieds, donc on le met en bas. Mais bon,
ils ont bon dos les pieds.
Non, la réalité, c'est qu'on a toujours considéré que c'est un ingrédient cheap. Et nous, en fait, on a fait la démarche inverse. Mais on l'a faite parce que on s'est installé avec les productrices, on a regardé leur façon de travailler, et on s'est dit, en fait, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire qui n'a simplement pas été mis en lumière, parce que bon, c'est pour moi, ça choque souvent quand je le dis, mais je pense que c'est juste la réalité. C'est des femmes africaines qui vivent en milieu rural, tout le monde s'en fout en fait, globalement. Sauf que ces femmes-là, ce sont aussi nos tantes, nos cousines, c'est des personnes qu'on connaît, pas leur agenda, mais on sait ce que c'est, à quel point c'est difficile de vivre en milieu rural. On s'est dit, on va hacker en fait l'industrie. Et on va positionner, repositionner, redonner sa valeur au beurre de karité, puisqu'il est si présent sur le marché, eh bien, très bien, appuyons-nous sur sa présence sur le marché. Et puis, racontons l'histoire du karité par des femmes africaines avec la voix des femmes africaines. Donc, en fait, quand on a cette démarche-là, on finit toujours par avoir un produit de qualité exceptionnelle. Et c'est pas uniquement vrai pour le karité, c'est vrai pour tout. Quand on tient compte, voilà, du savoir humain, du génie humain, de la créativité humaine, on ne peut qu'obtenir un produit de qualité. Et quand on rajoute l'histoire dessus, alors là, on atteint le summum de la qualité. Alors ça n'a pas été simple, hein, avec cette vision, en fait, on a pu avancer en se disant, à terme, l'impact, si on réussit, ça ne sera pas une réussite uniquement pour Caritic, ça sera une réussite pour ses productrices, sur le regard que le monde porte sur ces femmes-là, et ça sera une réussite globalement pour le continent africain.
Ouais, c'est ça.
De toute façon, je ne sais pas, enfin, que quelqu'un me prouve que tout ce qui est en provenance d'Afrique n'est pas perçu comme étant cheap, donc c'est un changement en fait de l'image de l'Afrique qu'on a initié avec Caritic et voilà ce qui fait la différence, c'est l'approche d'un ingrédient en provenance du continent africain, de la façon et le regard qu'on porte sur l'Afrique.
Et vous l'appelez Grand Cru, et c'est pas anecdotique pour vous?
C'est en ligne, hein, avec la vision qu'on avait au départ, qu'on a toujours. C'est le terme Grand Cru. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu cette idée. Je me baladais à Londres, je crois que c'est en 2017 ou 2018. Et à l'époque, la raw food était très très tendance. Ouais. On voyait du raw partout, vous savez, les barres de chocolat brut.
Le cru,
ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on utilisait déjà le terme non raffiné, le terme brut sur nos emballages depuis 2010. Les produits sont arrivés sur le marché en 2011. Et je cherche... Donc, non raffiné, ça dit que ce n'est pas raffiné, mais ce n'est pas un terme très, très positif, en fait, par rapport à ce qu'on voulait faire passer comme message. Et donc, je cherchais constamment un autre terme. Quand je suis rentrée de Londres, donc j'ai vu raw food, je me suis dit, moi, ça me parle, on va essayer d'avancer là-dessus. Notre distributeur, à l'époque, quand je lui explique ce que j'ai vu à Londres, je fais mon compte-rendu, il me dit, ah non, ça marchera jamais, le cru en France, non, jamais, jamais, jamais. OK, très bien. Et moi, à l'époque, je faisais des formations en magasin bio, donc je raconte, lors d'une formation, je raconte... le fait que l'arbre de karité est un arbre séculaire, un arbre sacré, et la conseillère me dit, mais en fait, c'est comme le vin. Mmh. Et là, je me dis, je rentre chez moi, je fais des recherches sur la sémantique, enfin, le champ lexical du vin, et là, je me dis, c'est ça, en fait. Si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, il faut associer le terme grand cru au karité, donc c'est comme ça que le terme grand cru est né. Et alors, ça, c'est l'idée. Après, quand confronté au marché, donc on change on met davantage en avant le terme grand cru sur nos emballages. Le terme brut non raffiné est toujours présent, mais plus mis en avant. Et en fait, déjà, quand on avait mis non raffiné en 2011, on a eu une visite de la répression des fraudes en 2012, qui nous a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous mettez le terme non raffiné? Ça peut poser problème aux concurrents. Donc, j'aimerais juste que je pense aux consommateurs quand je rajoute non raffiné.
C'est vrai, bien sûr.
Si les concurrents n'indiquent pas que leur karité est raffinée, on a un problème. Donc, à cette époque déjà, la répression des fraudes était informée du fait qu'il y avait une problématique sur le karité, mais ils n'ont rien fait de particulier. Et donc en 2014, quand on met le terme grand cru, là on reçoit une visite et ils nous demandent de justifier pourquoi est-ce qu'on utilise le terme grand cru. En fait, c'est assez paradoxal, mais c'est assez logique, c'est-à-dire que ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence et donc il faut justifier.
Bien sûr.
Sauf que nous on a été, c'est pas du harcèlement, mais je pense que tous les concurrents, en fait, les marques qui utilisent le caractère raffiné devaient signaler à chaque fois caritique ou
parce qu'on est
fraude.
C'est souvent comme ça que ça se passe.
Mais le résultat, c'est que en fait, comme on s'était justifié, nous, on avait de quoi justifier. Ça a été accepté, en fait. C'était accepté officiellement en 2018. C'est pas une reconnaissance au même titre qu'une IGP ou une appellation d'origine contrôlée, mais on a le droit d'utiliser ce terme. Et donc on a fait tout le travail pour. Donc ça a été une grande victoire parce que je me dis que ce terme peut être utilisé pour qualifier un ingrédient qui pendant longtemps a été perçu comme étant cheap.
Ouais. Et alors quelles sont les vertus du karité justement?
Alors, le karité, il faut savoir que c'est l'une des huiles végétales la plus riche en principes actifs réparateurs. Donc, ce qui est intéressant dans le karité, c'est qu'on a un cocktail de vitamines. Et je compare souvent, moi, le karité à l'huile d'argan. L'huile d'argan est très connue. Enfin, il y a un marketing excellent sur l'argan parce qu'elle est très riche en vitamine E, donc qui a des propriétés antioxydantes. Dans le cas du karité, on va avoir un cocktail de vitamines qui va de la vitamine A, il y a de la vitamine E, mais pas en quantité aussi importante que l'huile d'argan, il y a du parquéol qui est cicatrisant, du lupéol qui est désinfectant. Tout ça, en fait, ça s'appelle des insaponifiables qui sont censés être présentes dans les meilleures huiles, végétales, ou en tout cas les plus efficaces qui vont avoir une action réparatrice. L'autre intérêt, donc, dans le karité, fait partie de ces huiles végétales, de ces huiles dans le riz végétal qui a le taux d'insaponifiable le plus élevé. Donc, ça va de 1% à 17%. Donc, quand, dans un karité, on ne trouve pas 1% d'insaponifiable, c'est que c'est même pas la peine de prendre dans le karité. Et donc, quand on raffine, en fait, le risque qu'on prend, c'est de perdre ces vitamines qui sont très fragiles.
Bien sûr.
Nous, on ne markete pas en fait le taux d'insaponifiable. On dit juste qu'on ne raffine pas notre beurre de karité.
Voilà.
Mais du coup, c'est aux autres en fait de prouver que tout l'argumentaire qui vend aux consommateurs, tous les bénéfices qui vont aux consommateurs est effectif sur du karité raffiné.
Ouais, bien sûr.
Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du marketing là-dessus? Parce qu'on est cohérent on est honnête, c'est-à-dire que le beurre de karité brut, donc il est brut, il a un taux d'insaponifiable. Une fois qu'on l'a vendu, en fonction de la façon dont il va être stocké, en fonction de la durée de vie, une vitamine, en fait, c'est un peu comme c'est l'énergie, elle va s'épuiser si elle n'est pas suffisamment conservée. Donc le karité est intéressant pour ça, et c'est pour ça que dans les années 90, la plupart des marques se sont ruées sur cet ingrédient pour la cosmétique. Mais malheureusement, elles n'ont pas réussi à faire ce que nous on a fait, et ça s'explique simplement par le fait que nous sommes des femmes africaines et que on a juste eu de l'empathie pour d'autres femmes africaines. Et je ne dis pas que les autres marques qui ne sont pas africaines d'origine n'ont pas d'empathie. Je dis simplement que c'est extrêmement compliqué d'avoir un tel engagement, une telle implication, si on n'a pas une sorte de connexion avec le territoire sur lequel on intervient. Cette huile végétale, en fait, elle est merveilleuse parce qu'on n'a pas besoin de mettre des quantités importantes lorsqu'elle est brute, elle est fraîche. Mmh. Alors là, la fraîcheur, c'est un élément important que j'ai jamais forcément mis en avant, mais voilà, quand je dis que les vitamines peuvent s'épuiser, c'est que c'est important d'avoir un karité frais et pas un karité qui a été stocké pendant 2 ans. Voire même plus, puisque le karité est très stable. Enfin, s'il est de bonne qualité, fait à partir des amandes de bonne qualité, il a une stabilité très très importante. Et ça, ce que je viens de dire, ça pouvait être contesté tant qu'on n'avait pas fait des analyses qui prouvent la stabilité du beurre de karité brut. Donc, l'apport de karétique, en fait, a été de faire ce travail d'analyse chaque année pour prouver que c'est un ingrédient qui est stable, en tout cas, qui n'est pas constamment rejeté. Parce qu'avant, c'était rejeté. Avant 2010, la naissance de karétique, les laboratoires ne voulaient pas formuler avec du beurre de karité brut.
Ah ouais, carrément.
Parce qu'ils estimaient que c'était justement un ingrédient instable, avec une odeur souvent épouvantable. Et donc ils n'en voulaient pas. Nous, au départ, aucun laboratoire ne voulait travailler avec nous. Puis, il y en a eu un qui a accepté, mais qui a accepté parce qu'il avait une expérience, cette fois-ci en Amérique latine, il est parti, donc le fondateur du laboratoire Savoir des Peuples, qui, lui, s'est intéressé aux plantes, aux plantes indigènes en Amérique latine, et a beaucoup travaillé sur la biopiraterie, donc la protection des savoir-faire traditionnels, enfin, lutter contre la biopiraterie, à savoir s'approprier des savoir-faire traditionnels et ensuite déposer un brevet et voilà, s'annoncer comme étant la marque qui a découvert telle propriété dans telle ingrédient. Et donc, lui, il a entendu, en fait, ma démarche et le fait que je voulais rendre à ces productrices ce qui leur appartenait et valoriser leur savoir-faire. Donc, il a accepté de travailler avec nous. Et ça a été le seul. C'est le seul qui a eu le courage de faire ça. Et en sachant que j'avais mis un cahier des charges très... imposant un cahier des charges très particulier, dans le sens où je leur disais, non seulement je veux beaucoup de beurre de karité dans toutes les formules, mais en plus je ne veux pas d'eau et je veux absolument que ce soit des formules non grasses. Donc faut s'accrocher. mais ils ont réussi de façon exceptionnelle parce que c'est un laboratoire qui est à la pointe de l'innovation. À la pointe de l'innovation qui est très très bon en... formulation de galéniques, ils arrivent à avoir des galéniques très intéressantes en utilisant du naturel. Donc à l'époque, je sais pas s'il est toujours présent, mais c'était Jean-Claude Lejolife, l'ancien directeur R&D de Bourjois Chanel, si je dis pas de bêtises, qui chapeautait tout ça. Donc en fait, les produits qui sortaient devaient absolument être au même niveau que les produits de luxe sur le marché.
En tout cas, ils visaient
ça, quoi.
Il y avait une exigence.
Ouais, c'est ça. Et donc nous, dès le départ, en fait, on s'est mis des contraintes très très fortes. Alors des contraintes au niveau de la garantie de l'innocuité. Donc dès le départ, on était sur une certification bio.
Ouais, d'accord.
Alors quand je parle de contraintes, pour moi, c'est juste, certains voient ça comme une contrainte. Moi, j'appelle ça juste de la responsabilité. Donc, quand on fait du bio, c'est pas pour mettre un label sur nos produits, c'est qu'on veut préserver la santé de ceux avec lesquels on travaille.
Tout à fait.
Et la santé du consommateur, au final, en bout de chaîne. Et l'équitable, c'était le point de départ. Je voulais absolument rendre justice à ces femmes par rapport à ce que j'avais identifié dans ma mémoire et valoriser leur savoir-faire. Ensuite, la formule devait avoir une galénique parfaite. Alors que donc c'est les formules qui nous appartiennent, hein. C'est pas des, on va aller voir en laboratoire en disant, tiens, ça c'est sympa, je veux la même chose, je veux juste changer de parfum.
Oui, d'accord. Ouais. Okay.
Et donc en fait, c'était les premières formules, complexes, entre guillemets, qui étaient mises sur le marché à base de beurre de karité brut.
Ok, d'accord.
Sans conservateur, et puis le parfum qui a été choisi, c'était, un parfum, alors là aussi, il y a une anecdote, c'est que j'étais tellement épuisée dans le développement des premières formules que Caroline Rousseau, donc, qui travaillait avec Daniel Jouter à l'époque, la formulatrice m'avait proposé deux parfums et j'ai choisi celui, le parfum Mong, qui est notre parfum signature aujourd'hui. Et d'accord. Ce parfum, en fait, me rappelait l'Afrique. Donc, il faut savoir que le jour où j'ai choisi, j'étais au fin fond de l'Ardèche, à Peaugres. J'étais assise, c'était la veille du lancement de la gamme carétique sur le salon Natexpo. J'étais désespérée, j'étais déprimée, et quand j'ai respiré ce parfum,
ça m'a fait du bien.
Tout de suite apaisée, et ça m'a rappelé mon enfance au Bénin, etc. Et donc, quelques mois plus tard, les formules ont été finalisées, on a lancé sur Natexpo. Mais donc c'est pour vous expliquer en fait comment ces produits sont nés et comment on a les choix de formulation qui ont été faits. L'absence d'eau aujourd'hui, les produits qui fonctionnent très bien sont là pour la plupart soit sans eau, soit solides, etc. Moi j'ai choisi donc de ne pas mettre de l'eau dans nos premières formules parce que je ne voulais pas de conservateur. Donc il faut savoir que moi la cosmétique n'est pas mon métier de base. Je viens du monde de l'informatique. Et donc, j'ai fait appel aux meilleurs, en mon sens, dans ce domaine. Et l'eau, c'était voir des conservateurs, une liste d'ingrédients à rallonge, et puis des ingrédients que je n'aurais pas été capable d'expliquer, ou en tout cas, je n'étais pas justifiable, j'en voulais pas. Et quand s'est posé la question d'utiliser de l'eau, je me suis dit, bah, c'est une ressource qui est extrêmement importante et précieuse c'est en ça, Afrique, et rare. Si on peut s'en passer, je m'en passe. Et donc, même bien si sûr. Ça fait des formules complexes à la fin, et pas des formules qui ressemblent à ce qu'on trouve la plupart du temps sur le marché, bah, tant pis, mais au moins, c'est tant cohérent pis, ouais. avec, avec la démarche. Donc, on a sorti en 2011 ces formules sans eau et sans conservateur. Et ça a été très compliqué d'expliquer, ouais. puisque comme je vous le disais, quand on parle d'hydratation, on pense à de l'eau, donc c'est compliqué c'est d'arriver ça. Avec des baumes sans eau. Et quand on parle de beurre de karité, tout de suite on vous ramène dans la case de, c'est pour les peaux noires, c'est l'Afrique.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
C'était très compliqué, mais au final, je pense qu'il fallait ce temps-là pour que ce genre de formule s'installe sur le marché. Pareil, la couleur jaune, tous nos produits étaient la jaune. Donc en cosmétique, hein, moi je me rappelle en école de commerce, on nous disait de jamais mettre, la cosmétique doit être blanche. Il ne faut jamais mettre sur le marché des produits de couleurs différents du blanc. Bon, aujourd'hui, les choses ont bien changé.
Ça a évolué. Hein. Dieu merci, mais voilà. Ça a évolué.
Oui.
Ouais. Et aujourd'hui, il y a combien de femmes qui travaillent pour Carétique au Bénin et quels sont les avantages pour elles, en fait, de travailler avec vous?
Alors, je préfère dire qu'on travaille avec elles. Et donc elle travaille pour nous. Enfin, c'est donc il y en a 700 hein, qui sont dans le réseau Carétique et qui ont à la fois une certification. Enfin, les zones dans lesquelles elles récoltent le karité sont certifiées bio. Elles ont été formées par Carétique. Elles ont accès à l'unité de production qu'on a dû construire nous-mêmes parce que il fallait ça pour qu'elles puissent travailler dans des conditions dignes. Et que on puisse obtenir la certification. Donc c'est une unité à la fois écologique et biologique. Et donc elles sont 700. L'avantage pour elles, c'est que alors là, je vais essayer d'éviter de rentrer dans la technicité de la certification. Oui, oui, oui. Mais il faut savoir que en général, on demande aux coopératives de productrices de payer elles-mêmes la certification.
Donc,
quand vous savez que déjà les marques en France ont du mal à accepter de payer pour les certifications,
c'est clair.
Moi, quand j'ai appris que c'était comme ça que ça fonctionnait, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'il y ait une forme d'indépendance entre les coopératives et les marques, etc., etc. Bon, je me suis dit bon, on va faire différemment parce que je ne vois pas aller demander aux femmes de payer la certification. Ensuite, la certification, honnêtement, je dis qu'heureusement que j'ai un bac plus 5 pour pouvoir répondre au cahier des charges. Donc, en fait, c'est une forme d'illusion qui consiste à raconter des histoires sur les coopératives qui sont bio, qui sont équitables, etc. La réalité, c'est que tant qu'il n'y a pas un metteur sur le marché qui a rien ne se passe, en fait. Donc, nous, on était le metteur en marché pour ces femmes, mais on s'est rendu compte, vu le système de certification, qu'il fallait en gros tout faire. Il fallait s'occuper de tout, de A à Z. Donc, ça fait partie de... Souvent, on me dit, mais comment ça se fait que Carétique, qui est présent depuis plus de 10 ans sur le marché, ne fait pas des millions de chiffres d'affaires? C'est ça, en fait. Ça vient de ça. Et en fait, donc on leur a apporté ça, on a mis ça en place. Et ensuite, ça a été un modèle qui a pu être répliqué par d'autres aujourd'hui dans d'autres pays. Ils ont un revenu qui est... 3 fois supérieur au revenu du karité conventionnel, ni équitable, ni bio. Donc, je vous donner des indicateurs. La rémunération, le prix au kilo est de 3 euros sur place pour les productrices. Le coût de revient global, si on intègre l'eau, l'électricité, etc., est de 5 euros. Si vous rajoutez tous les frais logistiques du nord du Bénin jusqu'à Cotonou et ensuite l'exportation jusqu'au port de Fos à Marseille, là on arrive à 12 euros. Donc ça, c'est nos coûts à nous, le coût de revient du beurre de karité. Si on veut le produire dans des conditions dignes et saines et respectueuses.
Oui, voilà, c'est ça.
Après, on peut trouver du karité à un prix beaucoup plus bas. Dans ce cas-là, il suffit, si jamais les personnes doutent de ce que je dis, d'aller directement sur le terrain pour le constater. Le karité à un prix plus bas, c'est un karité produit par des femmes qui n'ont souvent, elles n'ont pas de, il n'y a pas un cadre, un lieu de travail.
Ouais, 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 c'est ça. Ouais.
Elles vont parfois porter leurs enfants. Elles sont pas protégées. Voilà, les enfants se baladent à droite à gauche, ça va être sur des chaudrons, ouais. Même, enfin, les fumées toxiques qui se dégagent.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Donc moi, j'estime que l'esclavage, c'est fini. Et qu'elles ont le droit de travailler dans le respect du droit du travail. C'est des êtres humains.
Ouais, des conditions dignes.
Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc souvent, quand on nous dit votre carité est trop chère, je dis il est au prix du respect de l'être humain et voilà.
C'est ça, exactement. Ouais. Et alors récemment, vous avez mis au jour un produit inattendu dont vous avez déjà parlé, le miel de karité. Mmh. Alors quelles sont ces spécificités?
Alors, ce produit-là, il est né. Donc, je vais commencer par les spécificités. Donc, c'est un miel issu de la fleur de karité dont la raison d'être, en fait, est que lorsque je me suis rendu compte que tout ce qu'on faisait n'allait certainement pas être mis en place par les marques qui utilisaient du karité raffiné par l'industrie en général. Parce qu'elle n'y avait pas d'intérêt, parce que bon, elle voyait pas non plus. Enfin, l'intérêt fondamentalement dans karité, qui est le bénéficiaire principal, c'est la productrice de karité. Donc
bien sûr. Ouais.
Donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit en fait ça ne va jamais se mettre en place. Donc il y a quand même 16 millions de femmes en Afrique qui vivent, qui ont besoin du karité pour vivre. Qu'est-ce qu'on peut, on peut actionner, en fait, pour que, quoi qu'il advienne, elles aient un plan B quand elles ont face à elles un acheteur qui les arnaque ou qui les exploite en leur proposant un prix trop bas pour leur karité. Et donc, j'étais à une formation de Cosme Bio, un formateur en innovation nous expliquait que parfois, il faut arrêter de creuser, il faut regarder à côté. Et ce à côté m'a rappelé le miel de karité qui était dans mes tiroirs, dans mes souvenirs et que j'avais mis de côté. Je me suis dit tiens, non seulement avec ce produit on peut leur apporter un complément de revenu, mais en plus on peut étendre en fait l'histoire du karité à quelque chose de plus, d'encore plus précieux, parce que le miel pour le coup c'est un produit qui a une connotation noble et qui est très très demandé à travers le monde et qui est parce que voilà, les abeilles disparaissent donc il y a de moins en moins de miel,
bien sûr.
Etc. Et donc on est parti sur ce projet et donc on fait une campagne de financement participatif sur Ulule qui marche, on arrive à récolter 10 000 euros, on installe les ruches, on récolte le miel et au moment où on exporte, on apprend que le Bénin n'est pas autorisé à exporter de miel vers l'Europe en 2014.
Ah,
et donc là, ceux qui ont participé ont été un peu échaudés, mais en fait, ils ont été très, comment dire, bienveillants, parce que nous on découvrait, il se trouve que là, beaucoup de personnes le découvraient en même temps, qu'il y avait une barrière en fait à l'entrée. Et quelque chose qui empêchait, enfin c'est quand même fou quoi de se dire qu'un produit aussi simple pouvait être bloqué. Donc on a fait un travail pendant 4 ans avec les autorités publiques au Bénin, avec la Commission européenne en France, et en 2018 on a obtenu l'autorisation. Entre-temps, je me suis dit bon, on va pas rester là à se tourner les pouces, analysons ce miel pour identifier ses propriétés. Et donc, on obtient une subvention de la BPI sur l'innovation et on travaille avec le Centre d'études des substances naturelles dans le Grand Lyon, qui identifie des composés anti-taches et anti-âge. Donc, sur le miel de karité, on en profite pour analyser à peu près tout, la fleur de karité, le beurre de karité, la coque de karité. Et en fait, là, on découvre en fait des propriétés sur d'autres parties de l'arbre de karité, sur la coque, sur le miel et sur la fleur. Et le gros plus de ce produit, c'est que non seulement il y a des propriétés réparatrices intéressantes, mais en plus, il a un goût sublime. C'est-à-dire qu'il a une richesse en fait. En goût et en saveur tel que j'étais heureuse d'avoir fait tout ce travail, parce qu'à un moment je vous avoue que je me disais non, c'est pas possible, on peut pas être à la fois une marque, un entrepreneur et devoir développer son entreprise et en même temps être en train de traduire, parce que j'ai dû faire ça en fait, j'ai dû traduire, le document qui permet d'exporter s'appelle un plan de surveillance du résidu vétérinaire, où là, en fait, vous découvrez tous les composants interdits en Europe dans des produits d'origine animale. Ce document, je l'ai traduit, je me rappelle, on devait être le 23 ou 24 décembre. J'étais seule chez moi dans mon appartement. Tout le monde se préparait à faire la fête. Et moi, j'étais en train de
traduire. Grand moment de solitude.
J'étais en train de traduire des règles, oh des articles.
Des pages et des pages.
C'est ça, une horreur. Mmh. C'était une horreur. Mais à la fin, j'avais une connaissance supplémentaire, en fait, comment exporter ce genre de produit et les barrières à l'entrée du marché européen.
Et du coup, c'est un produit qui peut être utilisé à la fois pour l'alimentaire et pour la cosmétique.
Tout à fait.
Ouais, tout à d'accord. Fait.
Et d'ailleurs, donc, la partie, on en parle aujourd'hui, donc on est en 2021, mais donc l'histoire est quand même assez longue, hein, elle a commencé en 2014. C'est juste qu'un journaliste passionné de miel fait un article dans Le Monde en 2020, et ensuite on a ce reportage, enfin en 2021, et on a ce reportage de France 2, qui met en lumière cet ingrédient, donc ce produit. Mais il est déjà présent, il était déjà présent dans nos produits cosmétiques qui ont été mis sur le marché en 2018. Donc on a déjà fait cette application. Et là, sur l'alimentaire, c'est pas trop notre cœur de métier, mais on se rend compte qu'en fait il y a de la demande. C'est-à-dire notre site internet a été pris d'assaut dès que le reportage a été diffusé et qu'on a constamment jusqu'à aujourd'hui de la demande pour du miel de fleur de karité, qui se trouve être un miel très rare. Et donc en fait c'est rare et je me rappelle qu'à l'époque des personnes se sont rendues sur place au Bénin, elles avaient goûté leur pot de miel, sont déplacées sur place pour en avoir plus. Donc je ne me fais aucun souci sur l'avenir de
il y a un débouché ouais, c'est bon.
Mais voilà tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour atteindre ce résultat.
Bravo, parce que c'est quand même pas.
Nous, tout ce qu'on fait, c'est du boulot et c'est propre, en fait. Si ça n'a pas été fait avant, c'est vous qui.
Oui, voilà. Vous défrichez, en fait, le
terrain.
Après,
chacun a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Moi, j'estime que tout ce qui est en lien avec l'Afrique, en fait, on se doit de le faire pour l'avenir, en fait, pour les générations qui suivent. Mais je peux comprendre que pour certains, ça soit une montagne trop importante à gravir.
Et alors, vous êtes très, très engagée dans tout ce qui touche à l'inclusivité. C'est important pour vous, aujourd'hui, d'élever la voix sur ce sujet.
Oui, c'est important parce que... Et je pense que ce qui illustre le mieux ça, c'est nos shampoings là, qui vont sortir en septembre. On était, je pense, jusqu'au bout de notre vision de ce que la France doit être, en gros, inclure,
multiculturelle,
mais de toute façon, c'est ce qu'elle est, c'est pas ce qu'elle doit être, c'est ce qu'elle est, simplement, c'est pas ce qu'on montre. On a, au bout de plusieurs années, puisque les shampoings sont dans nos tiroirs depuis longtemps, mais moi, je suis une jusque-boutiste, donc il y a quelques ingrédients que je n'aimais pas et que j'ai attendu jusqu'au bout pour qu'on obtienne la formule qu'on désirait, à savoir 100% naturel et certifié bio, et un shampoing qui mousse et sans plastique, etc.
Ouais, d'accord.
Pour les cheveux qu'on appelle texturés, donc bouclés, frisés.
Ouais, frisés, crépus.
Moi, le terme crépus, j'ai volontairement décidé de ne pas l'utiliser.
D'accord.
Alors, j'ai vu que c'était compliqué de remplacer par autre chose. Je me suis dit qu'on pourrait juste remplacer par afro. Simplement. Et puis la même formule, pas exactement la même formule. Dans l'une, il y a du lin, dans l'autre, il y a de l'avoine. Se baser toujours sur le karité pour répondre aussi aux besoins des cheveux lisses. Ma problématique, c'est le fait de systématiquement communautariser, ça crée toujours ça crée des tensions et souvent en fait c'est un effet boomerang, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont battues pour les minorités se retrouvent aujourd'hui en première ligne parce que je pense qu'elles n'ont pas intégré non plus la vision de ceux qui auraient dû les accompagner dans la démarche et dans le combat. Il s'est créé une scission. Et donc là, on a volontairement choisi de sortir des produits pour les deux types de cheveux.
D'accord.
L'innovation se trouve dans le fait qu'on utilise du karité brut en quantité très importante. pour un shampoing, hein, dans ouais, une ouais, formule. Ouais, ouais. Parce que forcément, s'il y a trop de gras, ça va pas mousser. Or là, on cherche aussi une galénique et une efficacité et un plaisir à l'utilisation du produit. Et en fait, est-ce que c'est important d'en parler de l'inclusivité aujourd'hui? Oui, mais moi, j'ai pas attendu en fait la mort de George Floyd pour en parler.
C'est sûr.
En fait, vu l'histoire de Care Ethics, en fait, j'ai été confrontée, enfin, où j'ai rencontré très tôt les distributeurs et je suis dans ce domaine depuis longtemps, mais je l'ai pas fait moi, j'ai pas développé Care Ethics pour mon propre intérêt ou.
Oui.
Donc je suis dans les réseaux de cosmétiques, enfin je suis au conseil d'administration de Cosmébio, je suis au conseil d'administration du mouvement Impact France, je me suis impliquée au maximum pour pouvoir vraiment faire changer les choses. Et donc parfois ça nous a coûté cher j'ai rencontré des distributeurs de la GMS, alors je les ai quasiment tous rencontrés. Je dirais que dans 50% des cas, j'ai eu droit à des remarques c'est du racisme ou de la discrimination,
racisme ordinaire
quoi. Voilà, et parfois même je pense qu'il n'était pas conscient, mais me demander si mon produit était réservé pour les peaux noires me dire c'est trop ethnique c'est pas fait pour les bébés noirs en particulier, etc. Et à chaque fois en fait je me suis battue, j'ai dit que ce que j'entendais était assimilable à de la discrimination.
Ouais.
Et ce que je dis souvent, c'est que le karité, c'est fait pour toutes les personnes qui ont une peau et des cheveux, et tiennent à leur peau et à leurs cheveux. Donc c'est une boutade,
mais c'est juste
pour faire comprendre que c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est une histoire d'état et de nature de peau qui va évoluer en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Donc quand on a une peau noire, et ça, le fait, c'est pas la peau noire qui va importer, c'est où est-ce qu'on est né au départ, retrouver avec une peau particulière qui nécessite un entretien particulier. Moi, et des soins particuliers. J'entends souvent dire que les peaux noires ont des besoins particuliers. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Tout dépend du point de départ, de l'endroit où on est, de l'endroit où on vient aussi, parce que la peau va s'habituer en fait à un environnement particulier. Et ensuite, elle va s'adapter plus ou moins bien à cet environnement. Voilà. Ensuite, il y a l'alimentation. Moi personnellement, je suis née au Bénin. J'ai principalement mangé des produits frais et des produits cuisinés, non transformés. Mon arrivée en France a nécessairement un peu déstabilisé mon organisme. C'est clair. Et ça a eu un impact sur ma peau, et un impact. Voilà. Donc c'est pas si simple que ça en fait. L'inclusivité est un fil rouge de Care Ethics depuis le début. J'ai effectivement pris la parole de façon beaucoup plus importante en 2020 à la mort de George Floyd, mais quand je disais que ça nous a coûté cher, c'est que il a fallu que je dise parfois des choses pour que personne n'aime être dans la position du raciste en fait. Personne.
Ouais, non mais c'est clair.
Lorsque vous mettez le doigt dessus, il y a nécessairement une réaction. Une réaction qui en général va vers on va référencer davantage de produits pour les noirs. Voilà. Donc il faut le faire pour les générations qui suivent, et j'encourage vraiment toutes les marques qui sont confrontées à ce genre de choses de le faire. Parfois ça coûte cher, mais
ça vaut le coup.
Mais ça vaut le coup et on n'a pas le choix en fait. Il faut le faire.
Ben merci beaucoup Carole.
Merci Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.